Le thème que l'Église nous invite à méditer aujourd'hui, c'est celui de la parole de Dieu. On imagine, il faut visualiser un peu Jésus là qui vient, comme à son habitude, nous dit Saint Luc. Donc il a fait une enquête soigneuse, Saint Luc. Et il vient dans la synagogue le jour du sabbat, donc un jour où on est à l'écoute du problème de Dieu et de l'Écriture sainte. Et il le lit. Alors c'est important déjà de voir que la grande culture du Seigneur, on n'insiste jamais beaucoup là-dessus, mais il savait lire, et pas seulement le langage courant. Déjà à l'époque d'Esdras, dans la première lecture, c'est-à-dire au retour de l'exil, lorsque ceux qui avaient été exilés 70 ans à Babylone reviennent pour reconstruire le temple, eh bien c'est inauguré par la lecture de la Torah, des commandements de Dieu donc. Mais déjà à l'époque, le texte était écrit en hébreu, et Esdras lisait le texte hébreu, comme Jésus lit le texte en hébreu, mais il fallait que les Lévites, ou les scribes, fassent la traduction en araméen, parce que déjà la langue était perdue, elle n'était plus dans l'usage. Vous voyez, c'est comme la différence entre le latin et le français. Le latin, oui, c'est la même famille linguistique, mais quand même, de là à le parler couramment, à le comprendre quand quelqu'un lit, c'est autre chose si on ne l'a pas appris. Donc, entre l'hébreu et l'araméen, il y avait vraiment quand même pas mal de différences. Il fallait traduire, et il fallait en plus, après la traduction, expliquer. C'était le rôle donc de ceux qui plus tard seront les scribes à l'époque de Jésus. Jésus, lui, est capable de lire même l'hébreu, donc ça vous dit quand même que Jésus avait une éducation soignée. Même s'il était humble, socialement parlant, le Seigneur n'a pas voulu laisser tomber cette branche qu'on appelle le savoir. Il voulait méditer la parole de Dieu et s'en donner les moyens. C'est un exemple, une direction qu'il nous donne à suivre. Écoutons vraiment la parole de Dieu. Et nous qui avons la chance de ne pas avoir de problème de langue pour lire la Bible, eh bien vraiment, lisons-la avec le même appétit que le Seigneur y mettait lui-même. Et ça nous montre, il revient à Nazareth chez lui, là où il a grandi pendant 30 ans. Ça nous montre aussi que les gens ne soupçonnaient pas vraiment qui il était. Ils ne savaient pas qu'il était Dieu, bien évidemment, qu'il était tellement au-dessus du panier. Jésus à la synagogue. C'est Jésus qui s'adresse à l'Église et qui ne dit rien d'autre que « c'est moi ». Ego eimi, c'est moi. Je suis celui que vous attendez. Alors, c'est d'une autre façon, Saint Jean dans son évangile traduit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est ce que ça veut dire. En reprenant ce passage d'Isaïe et en se l'appliquant à lui-même, parce qu'Isaïe ne parle pas seulement de son état prophétique, de son appel personnel, il parle du Messie. Et ce Messie, eh bien, Jésus reprend pour son propre compte. Il s'était passé des millénaires depuis la fondation du monde, avant que le vrai Messie, Dieu lui-même fait chair, vienne parmi nous. Alors ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et Jésus l'interprète, il l'incarne, mais en même temps, il la communique comme étant vraiment une bonne nouvelle pour ceux qui l'écoutent. Dieu ne fait pas de complexe. Il sait qu'il est en lui-même la bonne nouvelle de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il est venu. Et il leur dit, là, dans la synagogue, « Je suis, c'est moi, je suis là, je suis arrivé. Oui, le chemin, la vérité et la vie sont désormais à votre portée. » C'est quelque chose d'inimaginable. Et même aujourd'hui, nous avons du mal à entendre cette parole. Nous devons nous la réapproprier personnellement. C'est mesurer la chance merveilleuse qui nous est faite parce qu'au cours de chaque Eucharistie, Jésus est présent. Et Jésus, c'est comme s'il était là, comme si nous étions là plutôt à Nazareth à l'écouter parler. Le texte que Jésus a choisi dans le rouleau du prophète Isaïe décrit un état d'oppression spirituelle extrêmement intense à travers les promesses qu'il fait. Mais les promesses répondent à des maux et à des souffrances et à des oppressions, un état d'oppression globale qui sont bien réels. Ce n'est pas une oppression d'ordre psychologique. Ce n'est pas non plus une oppression d'ordre social. C'est une oppression spirituelle. Oui, l'aveuglement. Oui, la pauvreté, les liens, tout ça, c'est d'ordre spirituel. Et aux pauvres et aux malades auxquels Jésus, par Isaïe, s'adresse, eh bien, ce sont ceux qui sont éloignés de Dieu, fondamentalement. Alors, si l'Église se contente, et c'est vrai qu'une partie du clergé, c'est facile, on se contente de considérer, d'interpréter ça, et donc d'interpréter le messianisme du Christ sous l'angle social, par exemple, eh bien, ça donne la théologie de la libération, mais ça donne une théologie qui ne dénonce pas le monde. Ou alors, tantôt on dit aux sociétés, ben vous n'en faites pas assez, allez encore plus loin dans votre matérialisme pour le partager à tous, parce que le matérialisme, c'est la charité fraternelle. Ou bien on va leur dire, je ne sais pas moi, on va faire prêcher la révolution, au contraire, parce que la société est beaucoup trop égoïste. Mais peu importe, ça libère personne, ça. C'est un message, une prédication qui finalement ne vise que l'intégration des gens au monde. Donc il faut bien avoir à l'esprit la distinction de ce qui est vraiment spirituel, de ce qui est humain, matériel, psychologique, social. Ce que Jésus annonce comme bienfait, comme bonne nouvelle, c'est pas qu'il va organiser un monde qui va être idyllique, parfait à tout point de vue. Non! Il leur dit, je vais être avec vous jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin du monde. Je serai là. Et je serai là, non pas d'une façon passive, comme quelque chose, une énergie dont on choisit ou pas de faire usage pour réussir ou pour se protéger. Non, je suis là en tant que miséricorde et salut. Et c'est vraiment la miséricorde de Dieu qui vient au-devant des Hébreux esclaves en Égypte, qui vient au-devant, nous dit saint Jean, de ceux qui seront prisonniers de la Babylone ultime, que le dragon voudra édifier pour séparer les hommes de Dieu et les emprisonner spirituellement. C'est lui qui, Jésus, là, dans la synagogue de Nazareth, qui dit quitter Babylone. Et nous devons quitter cette Babylone de la fin des temps, mais cette Babylone, elle court tout au long de l'histoire. Simplement, ses liens sont plus ou moins étroits. Eh bien, quittons-la, mais à la suite du Christ. Personne ne peut quitter Babylone s'il n'y a pas Jésus comme bon berger pour nous guider. Et ça veut dire quitter Babylone, ça veut dire que les valeurs reconnaître, que les valeurs du monde ne mènent ni au bonheur, ni à la vérité, ni à la vie. Et c'est ça la véritable dénonciation du monde. C'est pas de dire donnez-nous plus d'argent et intégrez plus de, je sais pas moi, de personnes qui viennent de l'extérieur. Mais c'est le salut, c'est tellement plus. Ce qui vient de Jésus. Jésus vient nous libérer des ténèbres. Si ça ne nous frappe pas, c'est parce que on ne se représente pas ce que sont les ténèbres. Les hommes qui vivent pourtant dans un état de malheur, d'oppression spirituelle, finissent par s'habituer et puis par ne plus goûter ni reconnaître la densité et l'horreur des ténèbres. Jésus, dans ces conditions, ne peut pas être entendu. Il n'a pas de bonne nouvelle à donner à ceux qui n'attendent pas une libération. Ça, c'était Jésus à la synagogue. Jésus à Nazareth. il revient chez lui. Ça veut dire Jésus dans nos vies. Dans un premier temps, on voit là, que, dans le récit, que la prédication de Jésus impressionne vraiment les gens. Ils constatent combien ils avaient mésestimé celui qui a vécu 30 ans au milieu d'eux. Ah, ils n'avaient vraiment pas réussi à penser, à observer combien, d'abord qu'ils savaient lire, par exemple, mais qu'ils savaient tellement de choses, et pas seulement comme un dictionnaire, mais qu'il était capable de les comprendre et de les commenter et de les communiquer. La première réaction, c'est l'admiration. Mais ensuite, le doute revient, et après le doute, c'est carrément le rejet, la condamnation. La suite du texte, c'est Jésus qui leur reproche leur dureté de cœur, et qui leur dit que Dieu, eh bien, exauce plutôt les païens que les faux croyants. Et à ce moment-là, ils se saisissent de lui, ils veulent se saisir de lui pour le tuer carrément, pour le jeter du haut d'un escarpement. Et Jésus passe à travers eux. Donc c'est ça le contexte. Là, c'est juste le début qu'on a lu dans la synagogue. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire cet engouement premier. C'est que les hommes, eh bien, admirent l'idéal de l'Évangile. Mais finalement, ça c'est parce qu'on est fait pour ça, parce que l'homme a été créé par Dieu. Donc toutes les valeurs de l'Évangile, les hommes, quel que soit leur choix, eh bien, reconnaissent qu'elles sont fondées et qu'ils sont faits pour elles. Donc ça résonne d'une façon agréable à l'oreille de tous, les valeurs de l'Évangile. Valeurs d'amour, de charité fraternelle, d'entraide, de monde harmonieux et dans la paix, sans le stress, de la course à l'argent, etc. Mais, après cette admiration première, eh bien, il y a ce refus d'en faire un chemin personnel dans sa vie. Pour des tas de raisons, mais la raison fondamentale, c'est qu'on écoute le mauvais conseiller et que le chemin nous paraît trop rude et trop long et finalement qu'on n'a pas de garantie puisque c'est Dieu qui est la garantie et non pas nous-mêmes. Finalement, on passe avant Dieu. On n'est pas capable de considérer que Dieu est le rocher sur lequel il faut établir nos vies, construire nos vies. Et c'est la même chose dans les sociétés modernes. Les sociétés modernes dans leur ensemble prêchent des valeurs qui ne peuvent être que compatibles avec l'Évangile et qui bien souvent sont inspirées par elles, en tout cas en Occident. Mais en même temps, c'est jamais pour mettre l'Évangile en tant que tel, Dieu en tant que tel à la première place. C'est au contraire pour le rejeter, pour prendre ce qui marche pour parler au cœur des hommes et les mobiliser. Ah, on va vous faire un monde fraternel et juste. Ah, ces mots-là, tout de suite, c'est beau, c'est agréable. Et on fait tout le contraire. On construit une société marchande qui conduit à l'esclavage. Le monde, c'est Nazareth. C'est-à-dire que Dieu vit, se tient présent auprès de chacun, de chaque homme. Pas seulement les chrétiens, de chaque homme. Tous les hommes sont ses enfants. Donc, c'est ce Nazareth où Jésus a vécu pendant 30 ans. Il est là. Cependant, les hommes, eh bien, ne lui font pas de place, pas plus qu'au moment de la naissance du Christ à Bethléem. L'hôtellerie était pleine, mais là, c'est pareil. Les préoccupations des hommes sont toujours ailleurs. On ne fonde pas sa vie sur les valeurs de l'Évangile, sur la vérité qu'est Dieu. Aujourd'hui, toutes les crises qui agitent le monde, toutes, hein, économiques, politiques, écologiques, pandémiques, et tout ce que vous voudrez, en hic ou autre, eh bien, sont des avertissements en vue de la conversion. Et bien sûr, c'est les hommes qui sont à l'origine de cela, c'est pas Dieu qui va perturber la machine économique, par exemple. Non, c'est les hommes, ça suffit, hein, et pour qu'ils la perturbent. L'égoïsme suffit à tout perturber, et l'avidité aussi. Mais ça, Dieu est capable de s'en servir d'avertissement. Ces valeurs du monde ne mènent pas au bonheur, elles ne mènent pas à la vérité, ni à la liberté, ni à la vie. Alors, oui, réjouissons-nous, écoutons et contemplons Jésus qui nous dit « C'est moi, je suis la bonne nouvelle » parce que Jésus l'a fait résonner auprès de chacun d'entre nous.